Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine Connaissances et Témoignages. Nous lançons aujourd'hui une série de 10 émissions sur l'abbé Guérin. Plus précisément, Anne Bernet vous propose 10 émissions sur la vie de l'abbé Guérin. Et aujourd'hui, donc, nous allons commencer ces émissions. Bonjour Anne Bernet.
Bonjour.
Et donc, vous allez nous présenter tous les aspects de la vie de l'abbé Guérin.
Pendant les 10 émissions qui viendront une fois par mois, oui, j'essaierai de cerner la personnalité et la vie de l'abbé Guérin et d'expliquer pourquoi la cause de béatification a une importance non seulement pour notre diocèse, mais pour l'Église universelle. J'ai la chance d'avoir auprès de moi, je suis le postulateur de la cause, mais j'ai la chance d'avoir auprès de moi Christophe de Quatrebarbe, qui est le notaire de la cause, qui est une fonction aussi importante que quelquefois un peu austère. C'est pourquoi j'en profite pour le remercier. Et je voudrais rappeler donc à nos auditeurs que le 1er juin 2013, l'an dernier, Mgr Scherrer et Mgr Le Sceau, évêque du Mans, ont ouvert officiellement la cause de béatification de l'abbé Michel Guérin, curé de Pomain de 1836 à 1872, donc curé au moment de l'apparition du 17 janvier 1871. Une cause de béatification, c'est un événement important pour un diocèse, extrêmement important même. Nos auditeurs savent sans doute que le diocèse de Laval n'en a actuellement que deux en cours, celle de Victoire-Brielle et celle précisément de l'abbé Guérin. Alors, des causes de béatification, Rome en traite actuellement près d'un millier. Un millier d'autres, comme celle de l'abbé Guérin, se trouvent encore au niveau de l'enquête diocésaine. C'est-à-dire que les dossiers n'ont pas été transmis à Rome, ce sont des enquêtes préliminaires, certains n'aboutiront jamais. Mais c'est malgré tout un événement très important. Parce que Michel Guérin, je le dis en tant que postulateur avec une certaine confiance, a de belles chances d'être un jour béatifié. C'est une admirable figure dans sa grande simplicité. Prêtre de campagne dans le meilleur sens du terme, né à Laval en 1801, mort à Pomain en 1872 des séquelles d'un accident de la route. Michel Guérin n'a absolument rien fait d'extraordinaire dans sa vie au sens où les gens l'entendent habituellement, mais c'est précisément dans la simplicité du quotidien qu'il a été extraordinaire. Et c'est pourquoi il était bon d'ouvrir cette enquête de béatification. Et là, je vais laisser la parole à Christophe de Quatrebarbe, qui va nous rappeler en quoi consiste précisément cette procédure et quelles sont les personnes qui y sont impliquées.
L'évêque du diocèse, dans lequel a vécu la personne pressentie, demande d'abord à ses frères évêques leur agrément. C'est ce qu'a fait Mgr Scherrer avec la conférence des évêques de France il y a 2 ans. Et après avoir demandé l'agrément à ses pairs, demande à Rome également l'autorisation de lancer cette enquête dans le diocèse. C'est ce qu'on appelle le nihil obstat. Et Mgr Scherrer a reçu l'an passé l'agrément de Rome. Fort de ces documents importants, l'évêque, Mgr Scherrer, institue une commission d'enquête. Donc cette commission d'enquête, c'est un groupe de personnes qui... C'est une commission qui est composée de plusieurs membres, à la tête desquels se trouve le postulateur qui suit le déroulement de l'enquête au nom de l'acteur, qui est l'évêque. Donc le postulateur recueille la documentation, le postulateur conduit les recherches utiles et il établit ce qu'on appelle la positio, c'est-à-dire cet ensemble de documents qui permet d'apporter la réponse à la commission d'enquête. Un certain nombre d'autres acteurs jouent. C'est le promoteur de justice qui veille au respect des dispositions légales, car pour mener ce genre d'enquête, il y a bien entendu un cadre, je dirais, réglementaire qui a été établi par Rome, donc un promoteur de justice. Il y a également un notaire qui rédige les actes et les comptes rendus des sessions, qui recueille et qui transcrit les déclarations des témoins, et chez nous, qui veille à la circulation de l'information et qui suit des questions logistiques.
Je précise que malheureusement, le temps ayant passé, il n'y a plus de témoins dans la cause de l'abbé Guérin et nous le regrettons amèrement.
Voilà. La cause de l'abbé Guérin est une cause dite historique. Les censeurs théologiens, ensuite, font partie de cette commission d'enquête et eux examinent les écrits publiés et leur mission est de décrire, dans un rapport qu'ils établissent, la personnalité et la spiritualité de celui qu'on appelle le serviteur de Dieu, c'est-à-dire la personne pressentie, l'abbé Guérin. Et puis, derniers acteurs, et non des moindres, ce sont les experts en matière historique et archivistique qui recherchent les écrits qui ne sont pas publiés encore, qui recherchent dans les archives, dans les manuscrits, dans les imprimés de toute nature, pour pouvoir trouver des témoignages et rédiger un rapport.
Et n'oublions pas, car cela a son importance, en tout cas au niveau romain, la commission médicale, c'est-à-dire les experts médicaux, les trois médecins, qui, le cas échéant, sont nommés afin de pouvoir étudier des miracles qui seraient attribués à l'intercession du serviteur de Dieu, en l'occurrence de l'abbé Guérin. Et bon, cette commission médicale sera mise en place dans les prochains mois, car nous avons des raisons de penser que nous avons peut-être obtenu des grâces par l'intercession de l'abbé Guérin.
Donc, il s'agit d'une enquête qui a lieu actuellement au diocèse, qui peut prendre 2-3 ans en fonction des éléments tangibles que l'on est en train de trouver et qu'on pourra définir.
Certaines causes traînent depuis 30 ou 40 ans, quelquefois beaucoup plus. Je veux rassurer nos auditeurs, je pense que l'abbé Guérin nous simplifiera la vie et que ça n'usera pas plusieurs postulateurs et plusieurs commissions historiques comme le font certaines causes.
Voilà. Et donc, lorsque l'acteur de la cause, c'est-à-dire notre évêque, estimera le dossier est suffisamment argumenté, eh bien, à ce moment-là, le dossier partira à Rome pour être examiné à la Curie, à la Congrégation pour la cause des saints.
Précisément. Alors là, une autre commission se mettra en place pour examiner le dossier. Alors, j'allais dire, c'est là que les choses vont se ralentir parce que Rome est un peu débordée, mais nous ne doutons pas la cause sera examinée avec tout le sérieux désirable, que nous avons de bonnes chances de la voir aboutir. Et c'est là précisément qu'il faudra faire entrer en ligne de compte le ou les miracles de guérison que nous espérons. Alors me direz-vous, la cause des saints, cela implique la sainteté. Mais qu'est-ce que la sainteté? On a souvent tendance à penser que la sainteté est quelque chose d'exceptionnel, de rare. J'allais vous dire, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine d'être chrétien. Nous pouvons tous immédiatement retourner nous coucher, parce que si la sainteté est quelque chose d'absolument extraordinaire, s'il faut être Sainte Thérèse de Lisieux ou le curé d'Ars, ou Saint-Joseph de Cupertino qui s'envolait en extase et qui se retrouvait perché dans un arbre, je crois que nous sommes tous mal partis, parce que, avec la meilleure bonne volonté du monde, je ne pense pas que ça nous soit jamais arrivé, ni que ça menace spécialement de nous arriver. Par conséquent, si la sainteté se limitait à des phénomènes extraordinaires, vous, moi, nous serions très mal partis, et l'abbé Guérin également. Mais la sainteté, ce n'est pas cela. Quelquefois, lorsque j'ai l'occasion de parler de la cause de l'abbé Guérin, en France ou à l'étranger, des personnes me disent, je pense particulièrement à des dames italiennes qui m'ont dit cela au mois de juillet, « Bah, pourquoi est-ce que vous voulez le béatifier? Il n'a même pas vu la Sainte Vierge. » Alors, oui, c'est certain, l'abbé Guérin n'a pas vu la Sainte Vierge et cela ne change strictement rien, figurez-vous, à sa sainteté. Cela ne change rien parce que, bien sûr, certains des grands voyants des apparitions du XIXe siècle, Catherine Labouré, rue du Bac, Bernadette à Lourdes, ont été béatifiées, cela va de soi, mais elles n'ont pas été béatifiées parce qu'elles avaient vu la Sainte Vierge. Elles ont été béatifiées parce qu'elles ont mené tout le reste de leur vie, une existence religieuse dans leur cas, tout à fait parfaite. Comme le disait joliment Bernadette, une petite novice qui la regardait avec des yeux ronds, « Ma sœur, à quoi sert un balai ?»« À balayer, bien voyez-vous, la Sainte Vierge s'est servie de moi comme d'un balai, puis elle m'a mise dans mon coin. » Autrement dit, la sainteté, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Saint Thomas d'Aquin disait que la sainteté consiste pour l'homme à prendre Dieu pour fin de toutes ses pensées, toutes ses actions. Autrement dit, à ne rechercher que Dieu dans toute sa vie. Et que La vie de l'homme, dans ce cas-là, se transfigure pour n'être plus que connaissance et amour de Dieu. Connaissance et amour qui sont la fruit de la grâce divine et se réalisent dans la foi et la charité, qui conduiront ensuite à la vision béatifique, c'est-à-dire à l'union avec Dieu. Ah, voilà une définition bien savante, mais qui nous concerne tous. Comme l'a rappelé le Concile Vatican II dans la Constitution Lumen Gentium, la sainteté, c'est à quoi sont appelés tous les fidèles, tous les croyants. Vous, moi, nous sommes tous concernés, nous sommes tous appelés à la sainteté. La perfection qui nous conduira un jour à voir Dieu face à face, ce n'est pas un idéal inaccessible, c'est le but proposé à tous les chrétiens et même à toute l'humanité. Ce degré de perfection s'exerce, ou plutôt s'exprime, car la sainteté n'est pas une chose absolument visible. Il est rare qu'on puisse dire « Ah, je suis certain qu'un tel ou une telle est un saint ou une sainte ». S'exprime à travers les vertus, l'exercice des vertus, et plus exactement ce que l'Église appelle l'héroïcité des vertus. Ah, c'est un mot qui fait un peu peur, héroïcité, héroïque, héroïsme. Là encore, vous allez me dire en quoi sommes-nous concernés. Eh bien, à l'origine, l'Église considérait que la seule preuve de sainteté d'un fidèle, c'était le martyr. Qu'en acceptant de préférer Dieu à sa propre vie, il avait donné la preuve d'un amour de Dieu absolument parfait, qu'il était donc incontestablement un saint. Mais par la suite, on a considéré que on pouvait aimer Dieu autrement qu'en acceptant le martyr, autrement qu'en allant s'enfermer dans un couvent, que la sainteté pouvait s'exprimer de bien d'autres manières. C'est peut-être cet héroïsme des vertus au quotidien qui est d'ailleurs le plus difficile. Christophe, peut-être pourriez-vous nous rappeler effectivement que la sainteté au quotidien n'est pas quelque chose de si facile à vivre, et que je voudrais citer l'abbé Guérin qui disait en 1858 dans un sermon « S'il faut du courage pour vaincre une fois les bourreaux, ce qui est le cas des martyrs, il en faut bien davantage pour se vaincre toujours soi-même ». Eh bien, cette héroïcité des vertus, je pense que l'abbé Guérin l'a exercée. Qu'en pensez-vous, Christophe ?
Alors, concernant l'examen de l'héroïcité des vertus, quel type de questions est-ce qu'on peut se poser ? Quelques exemples vont montrer qu'on va s'attacher à travailler sur les vertus théologales, par exemple. Hein. Les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, ou les vertus cardinales.
La prudence, la justice, force et la tempérance.
Voilà. Donc la foi, par exemple. Eh bien, comment est-ce que l'abbé Guérin a-t-il manifesté sa foi dans les différents événements de la vie ? Son zèle pour les paroissiens, sa docilité envers son évêque, le désir de perfection. Autre question qu'on va poser dans cette quête, quels moyens a-t-il pris pour maintenir et alimenter sa foi ? Ces pratiques se sont-elles avérées héroïques, c'est-à-dire hors du commun? Donc voilà pour la foi, par exemple.
Et c'est là que Rome, d'ailleurs, se montre un peu moqueuse. parce que depuis le milieu du XXe siècle, on a béatifié un certain nombre de personnalités qui n'ont pas eu une vie en soi extraordinaire. Je pense à certains religieux tout à fait admirables, mais qui n'ont rien fait d'extraordinaire. Et je pense à ce que disait le pape Pie XI à propos de la béatification de l'un d'entre eux en 1928, un Français d'ailleurs, frère Bénilde. Il disait « La sainteté ne consiste pas à accomplir des choses extraordinaires, mais à accomplir des choses ordinaires d'une manière qui ne l'est pas. C'est une succession ininterrompue d'actions ordinaires dans un cadre modeste, transfiguré par une indéfectible constance dans la fidélité aux humbles devoirs du quotidien, la pratique de toutes les vertus, dans toutes les occasions, être extraordinaire dans l'ordinaire. » Et la Congrégation pour la cause des saints dit « C'est extraordinaire le nombre de fois dans un dossier, dans une position, nous voyons le postulateur nous dire « Il a été extraordinaire dans l'ordinaire ». Nous voulons rappeler aux messieurs et mesdames les postulateurs qu'il faut encore le prouver. C'est justement notre rôle, et ces émissions vont y aider. Nous allons démontrer que l'abbé Guérin, effectivement, a été extraordinaire dans l'ordinaire. Christophe parlait des différentes vertus qu'il a exercées. Il y en a une dans laquelle il a particulièrement brillé, c'est la vertu d'espérance. N'oublions pas que le titre canonique de Notre-Dame de Pomain, c'est Notre-Dame d'espérance. Or, songez à cet hiver 1870-1871, où la France entière est Pomain désespérée, et l'espérance de l'abbé Guérin n'a jamais failli. Or, à partir du moment où nous démontrons que l'espérance de l'abbé Guérin était extraordinaire, nous pouvons partir de la certitude qu'il a été extraordinaire aussi dans toutes les autres vertus, car théologiquement parlant, l'on n'exerce pas à la perfection une seule vertu, mais toutes. Nous avons donc bon espoir de démontrer la sainteté de l'abbé Guérin.
On a parlé des vertus théologales, des vertus cardinales, mais il y a d'autres vertus aussi, la pauvreté, l'obéissance, la chasteté, l'humilité. En quoi l'abbé Guérin a-t-il était héroïque dans ces vertus-là?
Eh bien, comme le fait remarquer la Congrégation pour la cause des saints, démontrer par exemple qu'un saint prêtre n'a jamais, de sa prime jeunesse jusqu'à sa mort, manqué à la vertu de chasteté, ni à la vertu de prudence qui est son corollaire, c'est déjà prouvé qu'il les a exercées l'une et l'autre de manière héroïque. Et ce n'est pas si simple. Ajoutez à cela que l'exercice héroïque des vertus demande également la preuve de la réputation de sainteté. Cette réputation de sainteté, eh bien, nous en avons la preuve, j'allais dire, tous les jours, n'est-ce pas, Christophe, à Pomain. L'une de vos tâches de notaire consiste précisément à vous assurer qu'il n'y a pas de culte officiel rendu à l'abbé Guérin, puisque l'Église n'a pas prononcé son jugement. Mais si on s'assure qu'il n'y a pas de culte, c'est qu'il y aurait raison d'en avoir, n'est-ce pas?
Oui, nous avons, concernant la réputation de sainteté qui est établie aujourd'hui, pour l'abbé Guérin, la source de l'enquête, hein, et en tout cas du déclenchement de cette enquête. C'est la réputation de sainteté qui fait déclencher l'enquête de béatification de l'abbé Guérin.
Précisément, vous pouvez être un très grand saint sans que personne dans le public ne s'en rende compte. Pourquoi on a instauré d'ailleurs la fête de la Toussaint. Ces saints qui ne seront connus qu'au ciel. Mais la réputation de sainteté qui doit être continue, stable et répandue dans une large part du peuple de Dieu permet effectivement à l'acteur de la cause, en ce cas Mgr Scherrer, de juger utile d'ouvrir la cause et de la lancer. Et c'est ensuite à nous de faire avancer les choses.
Mgr Scherrer a lancé donc cette enquête le 1er juin 2013. L'enquête est donc engagée maintenant et à partir de ce jour, 1er juin 2013, la cause est devenue publique. C'est-à-dire que, dans un premier temps, il était important de faire connaître l'abbé Guérin, de le faire connaître de façon plus approfondie et, comme l'on dit de manière convenue, de communiquer sur l'abbé Guérin. Et c'est à ce titre-là qu'un certain nombre d'images en langue française, d'images en langue étrangère ont été diffusés, notamment dans les paroisses du diocèse, notamment dans les communautés et les mouvements en Mayenne, également dans les centres mariaux français, à l'ensemble des évêques de la Conférence des évêques de France, et également, on peut voir de temps en temps dans les paroisses une affiche. Donc simultanément à cette publication, simultanément à cette communication, un effort a été fait dans les domaines, dans les médias, un site internet a été créé, et cette émission, d'ailleurs, fait partie de ce besoin de rendre public, de faire mieux connaître la cause de l'abbé Guérin.
C'est ce que Rome appelle la propagande de la cause, qui est une action tout à fait légitime. Et je suis heureuse de vous dire que cela fonctionne, puisque j'ai reçu il y a quelques jours une demande d'une paroisse de Zagreb, en Croatie, qui réclamait des images de l'abbé Guérin. Nous nous ferons un plaisir de les leur envoyer.
Mais on en a en français, en anglais et en italien.
Merci, Monseigneur, d'avoir la gentillesse d'inaugurer à notre compagnie cette nouvelle série d'émissions consacrée à l'abbé Guérin. J'aimerais vous demander pourquoi, en tant qu'évêque du diocèse, vous avez jugé bon et utile d'introduire la cause de béatification de l'abbé Guérin l'an dernier.
Oui, ben, et je pense pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une figure de prêtre assez extraordinaire. Un prêtre, d'ailleurs, je crois que vous l'avez dit vous-même, qui a fait de façon extraordinaire des choses ordinaires, et dont la réputation de sainteté s'est répandue très vite après sa mort. Donc on n'ouvre pas évidemment une cause de béatification sans cette première garantie. Et puis c'est vrai que c'est un projet qui était déjà ancien dans le diocèse. On en parle depuis un certain nombre d'années. L'abbé Guérin est une très belle figure, il faut la valoriser. Donc voilà, je pense qu'il fallait qu'à un moment ou à un autre, la décision soit prise d'ouvrir officiellement ce procès. Et puis, moi je vois évidemment un intérêt ecclésial majeur au moment où on insiste si fort sur la nécessité d'une nouvelle évangélisation. Je crois que Michel Guérin nous apparaît comme l'exemple particulièrement suggestif d'un engagement social et missionnaire tel que le pape François l'appelle de ses vœux dans son exhortation La joie de l'Évangile. Et donc je pense que pour toutes ces raisons, il vaut la peine que nous prenions le temps d'approfondir ce qu'a été la vie et le ministère du curé Guérin et de le présenter, si Dieu le veut, à la dévotion des fidèles.
Et vous pensez, Monseigneur, que très au-delà du diocèse, cette figure de prêtre peut intéresser l'ensemble de la communauté ecclésiale et que l'abbé Guérin est un exemple pour le monde entier?
Je pense que oui, parce que ce que nous retenons de l'abbé Guérin, c'est peut-être deux choses, enfin en tout cas qui me touchent particulièrement. C'est un éveilleur d'espérance, et puis c'est un prêtre aux périphéries existentielles, pour reprendre une expression du pape François. Un éveilleur d'espérance parce que l'époque où vécut Michel Guérin était particulièrement sombre, troublée qu'elle était par la guerre franco-prussienne. Et Michel Guérin est un prêtre qui va redonner joie et espérance à un petit peuple qui se sentait abandonné. Certainement, le contexte n'est plus le même que le sien aujourd'hui, mais nous voyons bien que nous vivons dans une société qui a perdu ses repères et nous avons besoin absolument de retrouver une nouvelle espérance dans le témoignage de ceux qui nous ont précédés. Je crois que Michel Guérin en est un. Et puis, quand je dis un prêtre aux périphéries existentielles, on sait que Pontmain était un hameau perdu au bout du département, un petit village qui n'intéressait ni l'administration ni l'Église, et c'est pourtant là que Michel Guérin va choisir de s'établir, dans le souci d'aller porter aux plus pauvres la bonne nouvelle de l'Évangile. Finalement, je crois que le portrait que nous avons du curé Guérin correspond bien à l'image du prêtre que promeut le pape François pour aujourd'hui, c'est-à-dire un prêtre profondément spirituel et social à la fois. Et pour toutes ces raisons, encore une fois, Michel Guérin me paraît être un modèle particulièrement bien choisi pour que, ensemble, au niveau de notre Église locale, mais au niveau aussi de toute l'Église universelle, nous retrouvions une nouvelle impulsion missionnaire.
Je vous remercie, Monseigneur, pour ce témoignage, pour avoir rappelé à quel point l'espérance a dominé la vie de Michel Guérin Notre-Dame de Pomain, portant le titre canonique de Notre-Dame d'Espérance, c'est on ne peut mieux fonder. Merci encore, Monseigneur.
Je vous en prie, merci à vous.